immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Une émission présentée par Benjamin Huin et Frédéric Musselin sur Bâti Radio.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Bâti Radio. Bienvenue dans votre émission mensuelle. Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'École des Ponts. Je vous rappelle que votre émission est réalisée en partenariat avec le Master Immobilier Bâtiment Durable Transition Carbone Énergétique et Numérique de l'École des Ponts ParisTech. Alors je vous rappelle bien sûr le principe de votre émission qui est de vous préparer, de vous former, vous acteurs de la chaîne de valeur de la filière immobilier et bâtiment afin que vous soyez prêts face aux enjeux actuels et futurs du développement durable. Alors aujourd'hui, comme chaque mois, nous allons nous intéresser au sujet développé durant la semaine de cours du master qui se déroule actuellement. Aujourd'hui, la question: quels sont les défis du pilotage, de l'exploitation et de la maintenance est posée. Alors, on va essayer de passer en revue les dernières méthodes permettant de piloter l'exploitation et la maintenance des bâtiments sous l'angle du développement durable. Alors, pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes, Alexandre Bompard, directeur général, Sébastien Ilouze, qui est responsable investissement et efficacité énergétique. Et enfin, nous aurons le plaisir de recevoir Alexandre Gand, qui est chef de la division plan en Nouvelle-Aquitaine au ministère des Armées, c'est-à-dire en quelque sorte un maître d'ouvrage, qui viendra nous expliquer pourquoi il a fait le master. Alors sans transition, Alexandre Bompard, bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous.
Donc vous êtes directeur général de Bean in Motion, qui est une société qui accompagne les acteurs de la construction dans l'approche digitale, en particulier le BIM. Vous avez publié un document intitulé « Le BIMGEM, pourquoi et comment ?» qui est disponible sur le site d'Exabim. Enfin, vous êtes intervenant de la semaine de cours du master dont le thème est le pilotage de l'exploitation et de la maintenance. Alors Alexandre, quand on parle de pilotage de l'exploitation et de la maintenance, est-ce que l'on parle systématiquement de BIM ?
Alors, tout d'abord, j'aimerais préciser le terme BIM qui n'est pas forcément connu de tous. Quand on parle de BIM, on parle d'abord de processus collaboratif autour de la gestion de la donnée. Ça va un peu plus loin que la simple production de maquettes numériques qu'on retrouve assez facilement sur des projets neufs et de réhabilitation. Et encore pas assez en exploitation maintenance. Alors c'est vrai que si on fait un retour un peu en arrière, il y a 15 ans, on n'avait pas de BIM en exploitation maintenance. On commençait à en percevoir en phase de conception et de construction. Aujourd'hui, ça se développe très progressivement. C'est-à-dire ça met le temps de production d'un projet de construction, bien entendu, pour déployer le BIM après en exploitation maintenance. Ça commence à arriver petit à petit. Mais tout de même, on sent quand même une montée en puissance du BIM pour l'exploitation maintenance qui se développe là depuis un ou deux ans, typiquement, et qui a tendance à se développer aussi dans le futur. Cette montée en puissance, elle est due principalement, voilà, aussi à une montée en compétence des acteurs de la construction, que ce soit de la maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, et des entreprises de construction.
Alors justement, excusez-moi Alexandre, oui. C'est intéressant ce que vous dites. On comprend bien que le BIM est voué à se développer massivement et que justement, c'est pas encore le cas. Alors, quelles sont les difficultés, justement, les raisons qui ne permettent pas un déploiement massif du BIM ?
Bah, tout d'abord, pour avoir un bon déploiement du BIM, il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi on met en place une démarche BIM pour l'exploitation maintenance, ce qui n'était pas toujours le cas. Sur des opérations, on a plutôt tendance à passer d'abord par la partie outils avant de se poser la question du pourquoi je mets en place cette démarche. Et ce qui a rendu en fait les choses un peu compliquées, c'est le trop cher, c'est trop long, c'est pas utile du coup de mettre en place du BIM en exploitation maintenance. Deuxième point, donc ça c'est le premier point sur la partie méthode qui doit être assurée pour déployer de manière assez massive le BIM en exploitation maintenance. Deuxième point, c'est que les entreprises n'ont pas forcément les compétences BIM ou n'avaient pas les compétences BIM pour piloter la production de maquettes numériques et l'utilisation des modèles, alors que ce soit côté client, donc maîtrise d'ouvrage, ou côté prestataire. Et donc, il a fallu modifier les méthodes de travail, et ça prend toujours un peu de temps. Il y a toujours des freins qui sont associés à cette résistance au changement pour faire vivre et développer le BIM.
Très bien. Si on se projette un petit peu dans le futur, plus ou moins proche, quelle est votre vision pour votre profession, pardon, pour l'avenir de la filière en général?
Alors, on voit deux phases. La première, c'est plutôt à court terme, d'ici 3 à 5 ans. Il va y avoir le développement de cette culture BIM pour l'exploitation maintenance. La maîtrise d'ouvrage devrait être accompagnée soit en interne, soit en externe, pour faire sa stratégie de digitalisation de ses process et de son patrimoine potentiellement, avec au fur et à mesure des pilotes, des référents qui vont être identifiés, référents BIM, référents data, pour cette montée en compétences. C'est des missions typiquement qu'on réalise chez BIMotion, c'est l'accompagnement à cette transformation de ces sociétés. Le deuxième point, c'est mettre en place aussi des indicateurs dans cette phase de 3 à 5 ans, d'indicateurs clés pour aussi récupérer d'ici 3 à 5 ans du retour sur investissement, ou en tout cas se dire quelles sont les améliorations liées à ce déploiement du BIM. Et après ces 5 ans, en tout cas, on l'espère, c'est l'intégration massive de ces processus issus de ce développement de la culture BIM auprès des opérationnels, avec une diffusion et une exploitation utile des données, et de manière semi-automatique, voire automatique.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre pour votre éclairage très convaincant sur le BIM et de son intérêt majeur pour l'exploitation et la maintenance.
Avec plaisir.
Sébastien Illouz, bonjour et bienvenue. Vous êtes ingénieur de formation, mobilisé par les enjeux énergétiques et environnementaux. Vous démarrez votre carrière comme consultant en stratégie patrimoniale et développement durable chez ICAD. Constatant que l'innovation passe par de nouvelles approches de financement, vous rejoignez en 2012 l'établissement public Caisse des dépôts. Actuellement responsable d'investissement au département transition énergétique et écologique de la Banque des Territoires, vous conduisez des projets d'efficacité énergétique dans le cadre de programmes territoriaux. Vous intervenez également sur les sujets de pilotage de l'exploitation et de la maintenance en tant qu'intervenant au master spécialisé immobilier et bâtiment durable, transition carbone énergétique et numérique de l'École des Ponts Paris Tech. Vous avez également contribué à la rédaction de l'ouvrage Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, co-dirigé avec Dominique Naert, le directeur du master. Alors j'ai envie de vous poser une première question, Sébastien. En quoi consiste votre métier lié au pilotage de l'exploitation et de la maintenance?
Oui, merci déjà Frédéric, Benjamin, là, cette invitation à nouveau pour pouvoir discuter de tout ça dans Radio Immo. Tiens, Radio, donc j'étais déjà intervenu la première fois pour parler de la stratégie de pilotage et gestion de parc, qui est une des dimensions importantes de mon métier. Et puis, il y en a une autre, justement, c'est le pilotage de l'exploitation et de la maintenance, les deux étant étroitement liés. Donc, pour rappel, donc la Banque des Territoires a notamment pour mission de travailler avec les collectivités pour rénover leur parc. Ça a été le sens et un des actes fondateurs de la création de la Banque des Territoires en 2018, avec le grand plan d'investissement sur la rénovation des bâtiments publics, à l'époque une enveloppe de 2 milliards d'euros de prêts, 500 millions d'euros de fonds propres pour rénover ce patrimoine et créer des solutions ad hoc. Et la performance énergétique de ce parc, comme de tout parc d'ailleurs immobilier, elle passe beaucoup justement par l'exploitation maintenant. C'est-à-dire que la qualité intrinsèque d'un bâtiment n'est révélée qu'avec une exploitation maintenance performante et puis des utilisateurs qui sont aussi mobilisés pour optimiser globalement tout ça. Et donc, c'est bien une chaîne de valeur qu'on adresse totalement. Et donc, cette chaîne de valeur, elle peut être totalement anéantie, dirais-je, annihilée par une exploitation maintenance défaillante, ou au contraire, être totalement transformée, galvanisée, optimisée grâce à ça. Donc, l'exploitation maintenant, c'est un petit peu quelque part là où tout se joue, et tout bon acteur de l'immobilier doit comprendre ce qui se joue au moment de l'exploitation maintenant s'il veut pouvoir avoir des opérations performantes.
D'accord, très bien, merci. Dans votre métier, quels sont les défis et éventuelles difficultés auxquelles vous faites face?
Eh ben, comme je le disais, le travail de la Banque des Territoires qui est d'accompagner sur le long terme, les maîtres d'ouvrage du patrimoine public, alors notamment des collectivités, mais ça peut être aussi les universités, ça peut être les hôpitaux, donc voilà, tout maître d'ouvrage public, en dehors, dirais-je, de vraiment patrimoine de l'État et du ministère, on retrouve justement deux enjeux très importants, que sont un, la capacité de maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation d'une opération de rénovation, puisqu'on est toujours sur ces rénovations énergétiques, et puis deux, à nouveau, je dirais la capacité du maîtrise du maître d'ouvrage, mais là, plutôt dans sa capacité à pouvoir mettre en place une maintenance performante. Alors, on parle beaucoup, et d'ailleurs, on en reparlera, je crois, à l'occasion de cette émission, de ce qui est notamment le BIM, avec Alexandre Debar qui interviendra, mais là, je dirais qu'on est dans les pratiques d'excellence. Donc, c'est très bien, mais il faut aussi connaître les fondamentaux. C'est un petit peu, si vous voulez, comme pour l'écriture et les mathématiques quand on est en maternelle. C'est déjà bien connaître cette base. Et donc, sans être trop scolaire, je pense que c'est important déjà de bien connaître les surfaces, les consommations énergétiques, comment on caractérise son parc. Alors, ça peut paraître des évidences, mais je peux vous dire que tant les maîtres d'ouvrage publics, mais aussi les maîtres d'ouvrage privés, pour la plupart, ne connaissent pas encore toutes ces informations. Alors, c'est en train de changer, notamment avec le décret tertiaire, la base de données Opéra, donc on avance bien de toutes ces choses-là, mais voilà, ça, ce sont les fondamentaux. Bien maîtriser une gamme de maintenance, bien maîtriser les contrôles périodiques réglementaires, donc tous qui sont ces fondamentaux-là sont à bien intégrer, et c'est d'ailleurs ce qu'on s'efforce de faire à l'occasion de la semaine exploitation et maintenance, en commençant par cette base et en allant jusqu'aux pratiques d'excellence, de BIM, de contrat de performance énergétique, de commission.
D'accord, merci. Si on se projette un peu, comment voyez-vous évoluer le métier et le rôle de l'exploitation maintenance des bâtiments dans les années à venir ?
Eh bien, moi, je prends le pari d'un rôle qui va devenir de plus en plus crucial, justement, comme je le disais, pour avoir un pilotage performant, à la fois sur le point de vue évidemment économique, mais aussi d'un point de vue écologique, énergétique, et puis même d'un point de vue social, pour avoir des bâtiments qui soient confortables, qui soient sains. Donc, ce rôle de l'exploitant mainteneur, qui, il y a encore une cinquantaine d'années, était consacré l'expression chiffon burette, la personne qui est à la chaufferie et qu'on vient voir que quand il y a un problème de température, est depuis des années en train fondamentalement de se transformer pour devenir une vraie offre servicielle de performance énergétique et environnementale. Et donc cette dimension-là, elle est fondamentale et va se développer. Et donc on est en train, au sein même de toutes ces organisations, de ces énergéticiens, de ces grandes sociétés d'exploitation, de maintenance, du facility management, de se transformer d'une société qui était notamment basée par la vente de ce qu'on appelle le P1, donc la fourniture d'énergie, qui est très importante parce que en matière de chiffre d'affaires, elle est relativement structurante, mais il faut, je dirais, un peu essayer de renoncer à ce volet-là parce qu'il est contradictoire avec quelque chose qui est au contraire d'avenir, qui est de vendre du service de performance énergétique et environnementale. Et là, on l'a compris, on ne peut pas à la fois vendre de l'énergie et en même temps vendre du service d'optimisation et donc de réduction des consommations d'énergie. Là, il y a quelque part une petite contradiction. Et donc, ce modèle-là économique doit se transformer pour arriver vers un haut niveau de service énergétique et environnemental.
Très bien, parfait. Merci, merci beaucoup Sébastien pour votre éclairage. On note cette évolution du métier vers une offre servicielle liée à la performance énergétique et environnementale qui ouvre certainement de nouveaux champs d'investigation et de débouchés. Et on perçoit bien la différence et les complémentarités entre votre activité et celle d'Alexandre Bompard que l'on vient d'écouter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Frédéric. Alors aujourd'hui, nous recevons Alexandre Gand, diplômé du master en 2021, je rappelle que Alexandre est chef de la division plan en Nouvelle-Aquitaine au ministère des Armées. Alors Alexandre, la première question, donc, en substance, qu'est-ce que le master vous a apporté dans l'exercice de votre métier et également, effectivement, dans votre organisation ?
D'abord, bonjour à tous. Donc, après une réussite à un concours au sein du ministère des Armées, j'ai eu l'opportunité de choisir une scolarité de haut niveau. Mon choix s'est rapidement porté sur le master IBD, donc immobilier bâtiment durable, pour plusieurs raisons. Au-delà du prestige de faire une scolarité au pont, le format d'une semaine thématique me paraissait pertinent et compatible avec mon emploi du temps. En effet, au début de cette aventure, j'étais chef d'une unité de maintenance à Toulouse. Il était donc plus facile de s'absenter et de monter sur Paris pour des modules cohérents et complets. Mais c'est surtout le contenu du master qui a guidé mon choix, confirmé par les bons retours que j'en avais. Et également, je voulais une formation assez généraliste pour embrasser les défis de demain, mais également technique pour avoir une réelle plus-value professionnelle. C'est une scolarité dense et exigeante qu'il faut mener de front avec son poste, mais à mon avis, cette formation est une solide plus-value pour l'employeur comme pour l'auditeur. C'est du gagnant-gagnant. Tout d'abord, une plus-value pour l'employeur, qui investit dans un ingénieur afin d'avoir un manager capable d'appréhender les défis énergétiques de demain et de démontrer la sensibilité qu'il porte à ce thème. Il faut prendre en compte que le ministère des Armées administre 40% du parc immobilier de l'État. Pour cela, il s'appuie sur le service infrastructure de la Défense, qui gère 2,5 milliards d'euros pour environ 30 millions de mètres carrés de surface bâtie. Au vu de ces chiffres, vous mesurez la nécessité d'avoir des cadres formés et sachant prendre du recul avec une vision d'ensemble sur le bâtiment. Le ministère a toujours investi dans la formation de ses personnels tout au long d'une carrière. Puis c'est également une plus-value, à titre personnel, une aventure humaine et professionnelle exaltante, valorisante. Bien que déjà expérimenté, ceci m'a permis de me remettre en question, de progresser, de remettre à jour mes connaissances avec de grands spécialistes des domaines abordés, mais également de m'enrichir en confrontant mes idées et en engageant, en échangeant avec des intervenants comme les autres masteriens. Enfin, à titre personnel, cette formation a concouru à une promotion interne et a consolidé ma prise de poste comme représentant du maître d'ouvrage à Bordeaux.
Merci Alexandre pour ce retour d'expérience et puis ces bonnes nouvelles. Finalement, vous avez pu franchir encore un échelon hiérarchique, c'est très bien, bravo.
Effectivement.
Est-ce que vous pouvez nous préciser le sujet de la thèse que vous avez réalisée, ainsi que les raisons de ce choix ?
Alors, le service infrastructure est riche dans sa diversité des sites à soutenir. Casernes, bases aériennes, ports pour navires ou sous-marins, centres d'essai de la Direction Générale de l'Armement, mais également riche en métiers. J'ai pu travailler en maintenance, être maître d'œuvre pendant plusieurs années, conduire des opérations d'infrastructure et enfin être maître d'ouvrage et piloter des nombreux projets en Nouvelle-Aquitaine. Fort de cette expérience, j'ai pu constater que la perte de données entre les différents acteurs tout au long d'un cycle de vie et les projets du poids financier de la maintenance et de l'énergie sur le cycle de vie représentaient des sommes colossales. J'ai alors souhaité exploiter ces connaissances acquises lors du master et mon expérience personnelle pour prendre du recul sur les projets et établir un plan d'action qui permettait, et c'est le titre de ma thèse, d'améliorer le processus d'une opération d'infrastructure afin de maîtriser le coût de la maintenance. Sujet dont la pertinence se confirme, voire se renforce, au vu de la situation actuelle internationale et le coût de l'énergie. L'objectif est d'utiliser des leviers comme le commissionnement, le management ou la gestion de données, en particulier le BIM, afin de limiter les pertes de données aux interfaces entre phases et acteurs, afin de limiter, en tout cas de maîtriser, les coûts et l'incidence financière. La finalité est de concourir au respect d'un triptyque performance-coût-délai pour satisfaire pleinement le client et optimiser l'investissement. La maintenance comme l'exploitation doivent être prises en compte dès le début d'un projet. Laisser la maintenance de côté, parfois par méconnaissance, souvent par manque de temps, est une erreur commune mais qui coûte cher. Ce n'est pas une phase finale mais la suite logique, réfléchi, mûri d'un projet cohérent et construit dans le cadre du numérique et de la performance énergétique. Il faut capitaliser sur la donnée pour consolider la connaissance de son patrimoine et ainsi mieux le gérer. Certains mots-clés comme prennent tout leur sens dans le cadre du bâtiment durable, anticiper, manager, capitaliser et donc économiser. En conclusion, cette thèse fut pour moi une chance de faire un véritable travail de fond, fort de ces nouvelles compétences acquises au master. J'ai pu aboutir, je pense, j'espère, à des actions que j'ai souhaitées les plus concrètes possibles afin de les mettre en œuvre rapidement dans le cadre de mon nouveau poste.
Merci beaucoup et merci à vous trois, Alexandre, Sébastien et Alexandre, deux Alexandres aujourd'hui. Nous vous retrouvons cette semaine au Master Immobilier Bâtiment Durable pour approfondir ces thèmes passionnants, bien sûr. Nous rappelons à nos auditeurs la parution de l'excellent livre Immobilier et bâtiment durable, réussir la transition carbone et numérique aux éditions Erol, ouvrage écrit en collaboration avec le master du même nom et qui reprend son programme. Vous trouverez également toutes les informations de notre master sur le site de l'École des Ponts, écoledesponts.fr.
Eh bien, c'est ainsi que la première saison de votre émission préférée s'achève. Nous espérons, Frédéric et moi, que vous avez eu autant de plaisir et d'intérêt à nous écouter que nous avons eu à préparer et à présenter cette émission autour de ces thèmes tellement d'actualité. Merci à nos invités, merci à l'École des Ponts, merci au Master, merci à Jean Carassus, à Dominique Nert. Et bien sûr à Bâti Radio, sans qui ces rendez-vous mensuels n'auraient jamais pu se produire. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité. À très vite.
À bientôt.
Immobilier, bâtiment durable avec l'École des Ponts. Une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.